Les années-lumière, édition du 14 mars 2010. Treizième journée annuelle de santé publique, de la grippe au jeu en ligne, en passant par la violence dans les couples et par la malbouffe, la santé publique est dans tous ses états. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une édition spéciale qui se passe devant public à l'occasion des traditionnelles JASP, les journées annuelles de santé publique. Les JASP qui en sont donc à leur 13e édition et nous y avons passé la semaine. Donc, émission devant public, émission aussi enregistrée vendredi midi sur les lieux de ces journées annuelles, l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal. Cette émission, on va la commencer avec un bilan de ce qui fut le sujet de santé publique des derniers mois, évidemment, la pandémie de grippe AH1N1 et la campagne de vaccination, bien évidemment. Mes trois invités sont déjà avec nous. Nous passerons ensuite à un problème de santé publique plus pointu, la contamination fréquente de l'eau des spas publics. Gaëlle Lucia Verdou.
On verra, Yannick, que les spas, c'est pas toujours très propre. Et en deuxième heure, je vous parle d'un phénomène grandissant, l'Internet santé.
Sophie-André Blondin, la santé publique veut sensibiliser le public au risque de maladie, mais il ne faut pas, comme on dit, qu'elle en rajoute.
Oui, comment sensibiliser sans sermonner? Et puis plus tard dans l'émission, nous abordons un problème largement méconnu, la violence conjugale chez les personnes âgées.
Deuxième heure, je vais la commencer avec une table ronde sur le rôle des professionnels de la santé publique dans les grands débats de société, comme le jeu, les mines d'uranium, par exemple, j'en ai parlé. Après quoi, on va parler d'Internet et de santé. Donc, avant d'aller à vous, Chantal Srivastava, vous nous direz que passer de la malbouffe à l'alimentation santé, c'est pas toujours du gâteau.
Et ce n'est pas parce qu'on décide d'éliminer les patates frites de nos écoles qu'on peut crier « mission accomplie », Yannick.
Et on va compléter la deuxième partie de l'émission donc avec la violence dans les couples. Mais pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, le virus AH1N1 2009. Et oui, AH1N1 2009, puisque c'est son vrai nom, le vrai nom de ce nouveau virus de l'influenza apparu en 2009. En fait, et c'est intéressant, le premier cas de la nouvelle grippe a été signalé au Mexique il y a eu très précisément un an, le 5 mars, donc il y a à peine quelques jours. Et pour parler de cette année incroyable, hein, où on est passé pendant quelques semaines d'un premier cas à une pandémie qui a mis la planète en alerte sanitaire, j'ai trois invités, trois médecins. Horacio Arruda, directeur de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Fernand Turcotte, spécialiste en médecine communautaire, professeur émérite de la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. Bonjour.
Bonjour.
Et Carl Vaes, microbiologiste et médecin à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Alors donc, je vais commencer avec vous, Horacio Arruda. Je l'ai dit, hein, la planète a été mise en alerte comme jamais. Mais finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, on a l'impression. Certains diront que H1N1, ça a été une grippette. Est-ce qu'on n'a pas crié au loup pour rien ou pour presque rien, Horacio Arruda?
Bon, il s'est dit beaucoup de choses sur la pandémie, il va encore s'en dire beaucoup. Mais moi, je pense qu'il faut ramener les faits là, tels qu'ils sont. Dans le fond, on a eu une pandémie.
On a eu une pandémie, oui.
Oui, il y a eu effectivement un nouveau virus qui est apparu dans le monde, qui est complètement nouveau, pour lequel la population était très susceptible, qui s'est transmis rapidement d'homme à homme et qui a eu aussi un niveau de sévérité qui pouvait être moindre que ce qu'on pouvait planifier en termes d'image, parce que le virus de l'influenza est très imprévisible, on le savait. On s'attendait à une pandémie qui allait émerger du H5N1 alors qu'on a eu complètement un autre virus.
Oui, H1N1,
mais dans
les
faits, il faut comprendre que peut-être la leçon à savoir, c'est qu'on avait dans l'inconscient pensé qu'une pandémie voulait nécessairement dire très haute sévérité. Mais il y a eu des
1918,
impacts.
Là.
C'est pas normal au Québec d'avoir des cas de grippe au printemps comme on en a eu. Il y a eu des soins intensifs comblés avec des jeunes. C'est une épidémiologie complètement différente. Une sévérité qui touchait certains sous-groupes. Donc, dans les faits, il y a eu une pandémie, juste en deuxième vague.
Mais il y a eu quand même assez peu de cas, finalement, et assez peu de décès, par exemple, par rapport à la grippe saisonnière, dont on parle toujours de millions de cas, etc.
Oui, il faut voir, les chiffres sont difficiles à comparer, si on est rigoureux en termes scientifiques, là, comme nos mesures habituelles d'influenza sont des estimées sur la base de d'autres types d'indicateurs, on ne peut pas carrément comparer les chiffres. Mais il y a eu quand même en haut de 10 000 cas confirmés dans la deuxième vague, plus de 2 500 personnes hospitalisées, des gens aux soins intensifs, et mon collègue, 82 décès en deuxième vague, et aussi des groupes différents qui étaient touchés, des gens plus jeunes, certains avec un syndrome très sévère, mais dans la globalité, le virus était moins sévère et tant mieux. Mmh. Et par contre, il faut voir aussi qu'on avait mis en place plusieurs mesures de prévention, d'hygiène, de salubrité, qui sont des acquis pour essayer de prévenir, et aussi la vaccination qui a eu un effet probablement sur la deuxième vague.
On va y aller à la vaccination, mais je vais parler à Carl Vaes maintenant. Donc, vu de la clinique, vu de l'hôpital où vous êtes, vous, est-ce que c'était une grippette?
Pas du tout, et je concours beaucoup avec ce que Dr Arruda vient de dire, dans le sens que les gens ont beaucoup confondu pandémie et sévérité de la pandémie, qui sont deux entités différentes. Je voulais juste vous faire remarquer qu'il y a une étude qui a quand même essayé de comparer parmi les patients hospitalisés ceux qui avaient la grippe ordinaire, avec des, je dirais, des cas historiques, et ceux qui avaient la grippe pandémique, la H1N1, et que les gens qui avaient le H1N1 avaient trois fois plus de chances de mourir s'ils étaient hospitalisés, à peu près trois fois plus de chances d'aller aux soins intensifs, et à peu près, grosso modo, trois fois plus de chances d'être intubés. Donc, on a vu qu'il y avait une épidémiologie beaucoup différente, on a vu qu'il y avait des gens plus jeunes qui étaient atteints, des fois sans facteur de risque. À peu près 20% des gens au Canada qui sont décédés de l'influenza H1N1 n'avaient pas de facteur de risque. Un certain nombre, environ 30% qui sont allés aux soins intensifs n'avaient pas de facteur de risque. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis infectiologue. En 15 ans, j'ai vu un patient avec l'influenza ordinaire hospitalisé aux soins intensifs dans l'hôpital qui, en termes de lits, est le plus gros au Québec. Donc, pratico-pratique, il y a une épidémiologie qui a été très différente.
Et ça vous inquiétait quand vous avez eu ça au début? C'est ça qui vous a inquiété, j'imagine, non?
Vous savez, les virus, c'est une boîte à surprises. Ce qui nous a inquiété au début, c'est que, un, on voyait qu'une pandémie arrivait. Deuxièmement, on a vu qu'au Mexique, initialement, le nombre de cas et de décès et de sévérité de cas sévères était élevé. Mais il faut comprendre que c'est la première pandémie qu'on a vécue avec trois choses très particulières qu'aucune autre pandémie n'a jamais connues. Un, des antiviraux. Deux, des mécanismes de détection virale avec de la biologie moléculaire qu'on n'a pas connue dans le passé. Et trois, on a eu une capacité de production vaccinale qui était probablement unique dans l'histoire, qu'on n'a pas connue dans les pandémies précédentes. Et c'est probablement le fait que ces trois choses ont été mises ensemble qu'on a eu un aplatissement très important des conséquences cliniques de cette pandémie, qui néanmoins ont été relativement plus sévères que ce qu'on voit habituellement avec les cas hospitalisés de grippe ordinaire.
Alors, Fernand Turcotte, bon, vous êtes très critique, on le sait, de cette opération vaccination, mais on va pour l'instant parler de la pandémie elle-même. Là. Est-ce que la réaction de la santé publique vous paraît, vous êtes quelqu'un de santé publique, vous a paru normale face à ce nouveau virus? Est-ce qu'on a trop réagi? Est-ce qu'on a crié au loup? Comment vous analysez ça? Je ne parle pas de la vaccination, je parle de la pandémie elle-même.
Donc, je pense que compte tenu des paramètres du problème tel qu'il se présentait au printemps dernier, que l'attitude, la réaction de notre système de santé publique a été tout à fait adaptée au contexte et que, comme j'ai eu l'occasion déjà de le répéter, de dire, on a fait la preuve au Canada qu'on avait un système de santé publique extrêmement compétent et capable de faire face à ce qui était une intervention sans précédent.
Mais quand vous avez vu apparaître la pandémie, est-ce que ça vous a inquiété, troublé?
Je vais juste y arriver dans une seconde. Et dans les 10 systèmes de santé publique qui caractérisent le Canada, il y en a un qui est bien meilleur que les autres, et c'est celui du Québec.
Bon.
Ceci étant dit, lorsque l'humanité est confrontée au genre de menace que présentait ou que présente une pandémie de ce type-là, on a convenu de se doter de mécanismes de prise de décision qui impliquent une concertation internationale parce qu'on n'est jamais en situation d'avoir toutes les informations dont on aurait besoin pour prendre une décision infaillible. Alors, on essaie de trouver le moins mauvais des compromis possibles. Et s'il y a un problème autour de la pandémie, il est encore trop tôt pour en décider. Mais ce problème-là, s'il est quelque part, il est à Genève.
À l'OMS, donc.
À l'OMS. Et c'est l'OMS à qui on aurait fait défaut, comme scientifique, en ne lui fournissant pas les conseils qui devaient ne tenir compte que des seuls paramètres de l'histoire naturelle de la maladie.
Mais l'Organisation mondiale de la santé a regardé ce qui se passait et trouvait quand même que oui, il y avait de quoi s'inquiéter. Est-ce que vous, comme médecin de santé publique, en mai-juin dernier, quand vous avez vu ça apparaître, vous avez dit oui, on a quelque chose de bizarroïde là?
C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de bizarroïde, mais pas seulement dans l'interaction virus-population humaine, il y avait quelque chose de bizarroïde dans le processus de prise de décision.
Oui, d'accord.
Et alors, c'est de ça dont il faut tenir compte à ce moment-là.
C'est ça. Alors, on arrive à la vaccination parce que c'était le grand sujet de débat et de discussion. Horacio Arruda, donc, vous avez été au premier plan, au front, à l'avant-front, à l'avant-plan de la campagne de vaccination, une campagne jamais vue. Un petit bilan très rapide des résultats. On a vacciné 57% de la population au Québec, etc. Un bilan rapide de ça.
Effectivement, on a vacciné 57% de la population. Dans certains sous-groupes, ça a atteint 70%, comme chez les jeunes enfants, etc. Donc, c'est quand même une couverture vaccinale qui, dans le contexte, et quand on se compare avec ce qui s'est passé dans le monde, un succès en termes d'opération. Mm-hmm. Je tiens à rappeler que, dans le fond, aussi, il faut comprendre qu'on avait toujours dit dans nos plans antérieurement, et on sait que pour combattre l'influenza, l'instrument numéro un, le plus coût d'efficacité, ce qui peut réduire à la fois la morbidité, la maladie, l'hospitalisation, etc., et les complications, ça demeure la vaccination. Mais ce plan-là, on le construit dans une perspective d'une bibitte émergente, de toute une série d'actions de prévention, de mesures, de traitement, parce que aussi, comme disait Dr. Weiss, les antiviraux, les gens qui ont eu des antiviraux précocement ont eu moins de complications, etc. Donc, c'est sûr que ça a été un instrument important.
Mais on vous dira que dans des pays comme, par exemple, la France, où on n'a quasiment pas vacciné, il n'y a pas eu plus de drames qu'au Canada ou en tout cas au Québec, où on a beaucoup vacciné?
Oui, il faut voir que vous pourrez en parler, les scientifiques, on en parlait justement en début de semaine, il y a peut-être une possibilité de troisième vague, ce virus-là est là dans la population, on va pouvoir refrapper. Le fait qu'au Québec, on ait eu des gens malades et des gens susceptibles, vaccinés, fait que la population l'est beaucoup moins et ce virus-là, il faut peut-être s'exprimer différemment.
Donc, les gens ont été vaccinés soit naturellement quand ils ont eu la maladie, soit avec le vaccin lui-même.
Oui, parce que le virus va continuer à vivre dans la population et va continuer à voir frapper les endroits où les gens sont susceptibles. Mm-hmm. Mais dans les faits aussi, cette vaccination-là qui est au Canada et au Québec a été aussi recommandée par des scientifiques experts qui regardaient l'épidémiologie et qui, en fonction de cet outil important qui est sécuritaire, nous recommandait d'offrir la vaccination à la population.
Carl Weiss, vous, comme microbiologiste en hôpital, là, vous regardez la vaccination, c'est pas vous qui vacciniez, hein, vous êtes plutôt pour ceux qui étaient malades, là, mais votre œil de médecin microbiologiste sur l'effet, l'intérêt de cette campagne de vaccination massive maintenant qu'on est passé derrière, qu'on l'a fini.
Vous savez, la vaccination, on a un débat un peu d'enfants gâtés et d'enfants riches. Il y a 200 pays sur la planète. Il y en a 60 qui ont pensé vacciner leur population. Il y en a à peu près 25 qui ont vacciné plus que 5% de leur population. Et il y en a à peu près pas loin de 10, mais un peu moins de 10 qui ont vacciné plus que 25% de la population, donc le Canada. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a probablement 90% de la planète qui n'a pas vraiment eu accès au vaccin de façon efficace et régulière. Donc, on est un petit peu dans un débat où on est en train de se dire, il y a peut-être des effets secondaires, c'est dangereux, etc. Mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui n'ont même pas eu cette question à se poser puisqu'ils n'ont même pas eu accès au vaccin. Après ça, il y a tout l'aspect des statistiques. Est-ce qui s'est passé exactement dans tel pays parce qu'on n'a pas eu de statistiques? C'est sûr qu'aux Indes, il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades, on ne sait pas trop combien sont morts et on ne sait pas si c'est vraiment ça qui était ça.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est difficile de comparer. En Europe, il y a eu des endroits aussi où il y a eu des groupes qui ont été assez sévèrement affectés. Donc, si on regarde l'aspect populationnel, la vaccination, on sait, puis il y a des modèles mathématiques qui sont pas mal précis, qui ont démontré que si on avait une campagne de vaccination massive, on pouvait avoir un impact important sur le nombre de cas, mais beaucoup plus que sur le nombre de cas, sur le nombre de cas sévères. Ce qui est important, c'est, à la limite, si vous êtes en bonne santé, je vous vaccine, vous n'allez pas tomber malade, vous allez rester chez vous pendant 4-5 jours, peut-être si vous tombez malade, mais si vous avez des facteurs de risque et vous tombez malade, là, vous allez être hospitalisé, vous allez aller à l'urgence, vous allez utiliser des ressources, vous allez aller aux soins intensifs. Vous savez, on parle des problèmes de soins intensifs dans le réseau actuellement. Je peux vous dire que l'élastique a été tiré très fort dans la première vague à Montréal au niveau des soins intensifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sans la campagne de vaccination, est-ce qu'on aurait eu un impact sur la population générale est-ce que ça a été significatif? Potentiellement, mais là où il a été probablement le plus significatif, c'est sur les gens qui étaient avec des facteurs de risque et qui, eux, finalement, on a évité des hospitalisations, des soins intensifs.
Mais on va dire
comme
qu'on
ça qu'on
a, on a mis quoi, 200 millions ou je ne sais pas combien de millions de dollars dans cette campagne-là, alors qu'on aurait pu les mettre ailleurs, par exemple aux soins intensifs dans les hôpitaux.
Mais
ou...
regardez, au Québec, on a un produit national brut d'à peu près 350 milliards de dollars. Même si la pandémie a coûté 350 millions, c'est même pas 0,1% du produit national brut. Si vous pensez que vous allez dépenser 0,1% de votre produit national brut pour faire face à une pandémie ou l'impact économique, je vous donne l'exemple du SRAS. Le SRAS a été, en 2003, localisé dans la ville de Toronto. Il ne s'est pas répandu dans la communauté. Il a coûté à l'économie canadienne 8 milliards de dollars. C'était 1% du produit national brut canadien à ce moment-là. Donc, si vous regardez l'impact économique de 250 ou 350 millions de dollars sur l'impact que ça aurait pu avoir juste en absentéisme, si chaque Québécois qui serait tombé malade s'était absenté deux journées supplémentaires, probablement que l'impact économique aurait été nettement plus grand.
Fernand Turcotte, donc je l'ai dit, vous êtes très, vous avez été très critique de toute l'opération de vaccination contre H1N1, notamment dans une interview au magazine Protégez-vous. Qu'est-ce qui vous chicote dans cette histoire d'intervention H1N1 pour bien remettre la table pour le bénéfice des auditeurs?
Si vous me permettez de corriger.
Oui.
Ce que j'ai expliqué à Protégez-vous, c'est essentiellement ce qu'on discute ici. C'est l'opération a été menée de manière tout à fait correcte.
Au niveau québécois-canadien.
Au niveau québécois, au niveau canadien. Le problème se pose à partir du moment où, tout à coup, des doutes légitimes entachent la validité de la décision de partir.
Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé.
C'est une décision qui venait de là, puisque, de fait, le Canada ne serait pas parti de sa propre initiative. À vacciner la population, comprenez-vous, si ce n'était pas parti, si vous voulez, de la concertation internationale. Et à partir du moment où un doute, et ce n'est pas un doute de farfelu, là, c'est un doute légitime, entache ou pèse sur la validité des procédés de consultation scientifique qui sont censés appuyer l'OMS dans ses prises de décision, il faut aller au fond de ce soupçon-là. Alors, il faut le liquider.
Et le soupçon, c'est qu'on a pris de façon... On a poussé le bouchon un peu loin pour dire qu'il fallait vacciner, c'est ça?
Pas nécessairement. On n'est même pas à ce niveau-là. Tout à coup, on s'aperçoit que sur la commission scientifique chargée de conseiller la direction de l'OMS sur ces questions-là, une majorité des membres étaient en conflit d'intérêts.
En conflit d'intérêts grave, c'est-à-dire toucher de l'argent, palper, comme on dit.
C'est-à-dire que conflit d'intérêts prend toutes sortes de significations, mais dans certains cas, c'était des caricatures de conflit d'intérêts. Mmh. Au point où il y a même un des membres de cette commission-là qui est poursuivi en justice par son propre gouvernement pour ce motif-là. C'est pas
alors,
rien, là.
Il y a un comité du Conseil de l'Europe qui fait enquête.
Présentement.
Et qui va remettre son rapport quelque part cet été, on
c'est
dit.
Ça.
Est-ce qu'il faudrait pas mieux attendre cette décision-là plutôt que de... avant plutôt que de crier un
petit peu? C'est ce que je dis depuis le début. S'il y a un problème, on ne le sait pas encore, mais on y travaille et on aura l'information d'ici quelques mois.
Parce qu'on dit, il y en a qui crient au loup, puis on a l'impression que vous criez au requin, au fond. Au requin. Il y a eu des requins de la finance, quelque part, non?
Non, c'est pas vraiment l'avertissement que j'ai lancé.
Ouais.
J'ai essayé de faire comprendre aux gens que dans la question de la pandémie, et au moment où on m'a interpellé sur cette question-là, c'était un moment où il y avait des plats qui étaient faits autour de cafouillages inévitables dans ce genre d'opération-là, pour essayer de, croyant que c'était des gaffes locales, domestiques, alors que dans les faits, au contraire, on a été là-dessus exemplaires. S'il y a des gaffes qui ont été commises, c'est au niveau, si vous voulez, de la... c'est dans le bureau du général.
On le verra cet été. Un tout petit mot, Fernand Turcotte, avant de finir, parce que le temps tourne. Est-ce qu'en faisant ce que vous faites, vous risquez pas de porter de l'eau au moulin aux anti-vaccinalistes dont on a entendu certains... débordement au moment de la campagne, le printemps, l'été dernier, l'automne dernier?
Ben, j'espère que pas. C'est précisément parce que je respecte la validité du vaccin comme outil de protection de la santé publique que je suis tellement soucieux d'en préserver la qualité de l'administration.
Mm-hmm. Donc, maintenant, vous n'êtes pas devenu anti-vaccinaliste?
Pas du tout. J'ai jamais été anti-vaccinaliste. C'est un mouvement crackpot qu'il y a dans chaque époque, où chaque crise les soit. Mais je veux dire, j'ai rien à voir avec ça.
OK, merci. On doit déjà conclure une petite réaction.
Peut-être, c'est une chose. L'OMS, pour ce qui est des questions des conflits d'intérêts, va laisser l'enquête se faire. Mais par contre, il faut comprendre qu'au Québec, comme au Canada, on a aussi nos experts qui faisaient leurs analyses sur la situation. Et dans les faits, la recommandation de vacciner dans nos plans était là comme mesure de santé publique, comme instrument important pour justement prévenir les cas, la morbidité et la mortalité, comme disait le Dr Weiss. Dans le fait, l'OMS est là pour coordonner, déclarer la pandémie comme telle, mais on avait nos structures d'expertise au sein du Québec et au Canada qui étaient, elles aussi, capables de prendre le sujet par rapport à l'épidémiologie.
Carl Weiss, réaction sur l'OMS et son rôle possiblement toxique dans l'opération?
Écoutez, en tant qu'infectiologue, l'OMS, c'est jamais une référence pour nous. On sait que c'est une organisation qui est très politisée, c'est vrai, il faut le dire. Et c'est pas forcément la référence sur laquelle on se tient. La référence, elle est plutôt soit aux États-Unis où le CDC a eu aussi des comités qui étaient indépendants. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'au-delà de l'OMS, il y a beaucoup de pays où il y a eu beaucoup de comités locaux qui, indépendamment, sont tous arrivés à la même conclusion. Donc, je peux comprendre qu'il y ait peut-être des conflits d'intérêts, puis ça va être examiné, mais des conflits d'intérêts, ça peut exister dans toutes les industries. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans tous les pays, en tout cas en Occident, les gens sont arrivés à la même conclusion sur quelle méthode prendre pour essayer de tuer dans l'œuf cette pandémie. Donc, ou bien on s'est tous trompés partout, ou bien on avait probablement pas mal raison, avec peut-être des variations qu'il va falloir analyser partout. Et c'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
Un tout petit mot pour finir, Fernand Turcotte. Est-ce qu'effectivement, tout le monde peut s'être trompé? Ou s'il y a seulement l'OMS et que dans ce cas-là, ce n'est qu'une voie dans l'ensemble de la décision?
Je peux répondre qu'à une partie de la question. Il est sûr que dans l'opinion publique, l'urgence ou le niveau d'appréhension qui a frisé parfois une inquiétude pré-panique originait de Genève. Et de fait, c'est là que, de fait, le mouvement d'opinion publique qui était nécessaire pour propulser les méthodes de défense contre la pandémie a pris son origine et c'est là qu'il faut résoudre le problème.
D'accord.
Et on verra par la suite s'il faut faire le ménage ailleurs, parce qu'il est possible qu'il y ait des conflits d'intérêts beaucoup plus répandus qu'on le pense. Mais pour l'instant, commençons
question
avec ce qui est travaillable.
D'accord.
Ça.
Fernand Turcotte, je vous remercie. Donc, je rappelle que vous êtes professeur émérite de la Faculté de médecine de l'Université Laval, spécialiste en santé communautaire. Horacio Arruda, merci également, directeur de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des services sociaux à Québec. Et Carl Weiss, microbiologiste, médecin à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Merci à tous les trois.
Merci.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, après la grippe, on va rester dans le thème des infections, pas celles qu'on attrape en serrant des mains ou en se faisant des bisous, mais plutôt celles qu'on peut attraper en se faisant dorloter dans les spas publics. Gaël, Lucia Berdou, ça vous a troublé cette histoire de spa, n'est-ce pas?
Les spas ou les jacuzzi, Yannick, qui peuvent devenir de véritables bouillons de culture s'ils ne sont pas bien entretenus. Wesh, oui. Après tout, hein, c'est chaud et c'est confortable, un spa public, donc il n'y a pas que les baigneurs qui aiment ça, les bactéries aussi aiment bien ça de temps en temps. Alors, à quel point ces endroits peuvent-ils être contaminés? C'est ce qu'a regardé notre invité Nicolas Brousseau, qui est médecin résident en santé communautaire à l'Université Laval et qui a publié avec l'Institut national de santé publique une étude sur la contamination microbiologique des spas publics au Québec. Bonjour, Monsieur Brousseau.
Bonjour.
Alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à ces spas publics, dans le fond, des spas qu'on retrouve dans les hôtels et comme camping, les clubs sportifs et tout ça? Qu'est-ce qui vous intéresse, Alain?
Premièrement, une chose importante, c'est qu'on observe un engouement important pour les spas dans la province de Québec. Ça en vend plus de 12 000 par année. Puis, on sait qu'il y a certains risques qui peuvent être associés à la fréquentation des spas. Bien sûr, il y a des risques de blessures ou d'irritations dues aux produits chimiques, mais principalement, il y a des risques infectieux, principalement des risques d'infection de la peau et d'infection respiratoire. Donc, c'est important de documenter la qualité de l'eau des spas au Québec.
Qu'est-ce qu'on attrape, justement, ou qu'est-ce qu'on peut risquer d'attraper quand on va dans un spa public?
Bien, les deux choses principales qui peuvent arriver, c'est premièrement des infections de la peau. Il peut y avoir des boutons qui se développent au niveau du tronc, des aisselles, des fesses. Ça dure à peu près 5 jours, puis ça se résout par soi-même. Mais par contre, ça donne beaucoup d'inconfort pour les baigneurs. Mais de façon plus... le risque le plus important, c'est des infections respiratoires comme des pneumonies. Il y a une vapeur d'eau chaude qui se dégage des spas. Les gens peuvent respirer cette vapeur-là. Puis ça contient certaines bactéries. Il peut y avoir des pneumonies sévères qui se développent.
Et vous avez même regardé des bactéries bien spécifiques, notamment celles qui causent la légionellose, qui est quand même une maladie pas banale.
Effectivement, il y a une bactérie qui s'appelle Légionella, qui donne justement la maladie des légionnaires, qui est une pneumonie sévère. Puis, on a regardé sa présence d'environ 100 spas publics au Québec. Puis, on l'a retrouvé d'environ un spa sur 5.
Un spa sur 5. Alors, avant de parler des résultats, d'abord, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est fréquent au Québec? Est-ce que vraiment les gens attrapent ça ou est-ce qu'on ne veut pas faire peur aux gens pour rien non plus?
Bien, faut savoir que c'est des infections qui surviennent peu fréquemment. Par contre, quand ils surviennent, ça peut donner des problèmes relativement sévères. Dans l'ensemble, il ne faut pas voir les spas comme un danger pour la population. Il y a plusieurs bénéfices qui sont associés à la fréquentation des spas, de détente, etc. Par contre, dans l'étude, on a retrouvé des problèmes importants au niveau de la qualité de l'eau des spas. Ça veut seulement dire qu'il faut s'en préoccuper, qu'il faut s'attarder aux problèmes puis assurer la sécurité des baigneurs.
Alors, au Québec, on ne connaît pas vraiment de cas jusqu'à maintenant de maladies infectieuses importantes attrapées dans des spas. Est-ce que c'est le cas ailleurs, par contre?
Effectivement, au Québec, on n'a jamais rapporté d'infections respiratoires sévères comme des pneumonies. Par contre, dans certains pays d'Europe, il y a eu des éclosions importantes associées aux spas. Par exemple, une aux Pays-Bas en 1999, où il y a eu 20 décès, puis plus de 130 hospitalisations associées à un seul spa. Puis dans ces pays-là, il y a eu des mesures actives qui ont été prises pour assurer la sécurité de la baignade. Donc, c'est important d'être proactif aussi au Québec, même s'il n'y a pas eu encore d'infections qui ont été rapportées.
Donc, vous disiez que vous avez regardé une centaine de spas publics au Québec pour la présence de certaines bactéries, et vous en avez trouvé, vous parliez de la légionellose, dans un spa sur 5?
Mm-hmm. Effectivement, on a retrouvé cette bactérie-là dans plusieurs spas. Par contre, il faut dire que ce n'est pas en grande quantité, donc pas pour causer des problèmes de santé chez les baigneurs. Par contre, s'il y a un entretien qui demeure déficient puis qui est prolifère à long terme, il peut y avoir certains problèmes de santé. Donc, d'où l'importance d'améliorer l'entretien qui est fait au niveau des spas.
On ne vous demandera pas de nom, mais est-ce qu'il y en avait où c'était en quantité significative?
Il y a eu quelques spas où il y avait des quantités importantes de bactéries, mais ce n'était pas une étude qui était spécifiquement sur les problèmes de santé. Nous, on regardait la présence de bactéries dans les spas, donc on ne peut pas dire jusqu'à quel point c'était un risque important pour la santé. Mais il faut avoir une attitude proactive puis s'assurer que la baignade demeure sécuritaire.
Alors justement, est-ce qu'il y a une réglementation pour l'entretien de ces spas-là?
Effectivement, depuis 2006, il y a un règlement qui s'applique à la fois aux piscines et aux spas, qui est géré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs. Par contre, on s'est rendu compte que ce règlement-là s'applique davantage aux piscines qu'aux spas. Ce serait une bonne chose qu'il soit davantage adapté aux bactéries qu'on retrouve dans les spas, mm-hmm, pour mieux orienter les gestionnaires.
Alors, vous avez interrogé justement les responsables de ces spas-là dans votre étude. Et qu'est-ce que vous avez constaté ou appris?
Bien, une chose principale qu'on a remarquée, c'est que sur la centaine de spas qu'on a échantillonnés, il y avait seulement environ 4 gestionnaires qui étaient formés pour faire l'entretien. Donc, il y a un manque de formation. Il faut dire que les gens étaient tous très motivés à faire un bon entretien, mais il y a peu de formations qui sont disponibles, peu d'outils. Le ministère du Développement durable a fait certains outils pour aider les gestionnaires de spas, mais il semble que qu'il faille en faire davantage là, pour que les gens soient bien formés.
Oui, donc vous dites qu'il y en avait seulement 4 sur 100 qui connaissaient vraiment ou qui avaient suivi une formation pour s'en occuper.
Exactement.
C'est assez peu. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on a quelque chose à dire aux gens qui utilisent les spas publics? Est-ce qu'il y a des précautions qu'ils devraient prendre quand ils y vont ou des choses sur lesquelles ils devraient s'informer?
Mais il y a des petites choses que la population, les gens peuvent faire pour savoir si l'eau du spa est de bonne qualité. La première chose, c'est que par règlement, les établissements sont obligés de tenir un registre sur la qualité de l'eau. Donc, c'est une bonne chose pour les clients, les visiteurs, de demander de voir ce registre-là, puis de voir s'il y a plusieurs tests d'eau qui sont faits par jour, par exemple. Puis aussi, un établissement sérieux va obliger les clients à suivre certaines consignes, par exemple, de prendre une douche avant d'aller dans le spa. Donc, il faut que l'établissement, normalement, encadre bien la baignade.
Oui, une douche avant et peut-être une douche après, en terminant, M. Brousseau.
Effectivement.
Merci beaucoup, Nicolas Brousseau.
Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Gaël, que votre invité était Nicolas Brousseau, médecin résident en santé communautaire à l'Université Laval. Je voyais ici le docteur Poirier qui écoutait tout ça en se disant qu'il va avoir un nouveau problème de santé publique sur les épaules. Il ne pourra plus aller dans les spas, son sport favori. Et bref, conclusion, ne soyons pas légion dans les spas publics. Merci beaucoup, Gaël. Merci à votre invité.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission enregistrée vendredi à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal où se tenaient les 13e journées annuelles de santé publique. Peut-être pas envie d'aller trop se baigner dans les spas après ce qu'on vient d'entendre, mais il y a un autre bain auquel on n'échappe pas, c'est le bain médiatique, ne serait-ce qu'au sujet de la santé, de notre santé. On baigne dans un fouillis d'informations, de publicités, de messages de tout genre, et tout ce beau monde veut notre bien, évidemment, Sophie-André Blondin.
Eh oui, mangez mieux, bougez plus, ne fumez pas.
N'allez pas dans les spas.
Peut-être un jour, on verra. Les messages de santé publique qui touchent à nos habitudes de vie représentent, c'est vrai, une petite partie du bruit médiatique autour de la santé, mais ils sont là, on les entend. Est-ce qu'ils sont efficaces? Comment est-ce qu'on les perçoit, nous, le public? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Je vous les présente tout de suite. Suzanne Laberge, tout d'abord, qui est anthropologue et kinésiologue spécialiste de la promotion de l'activité physique à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Laberge.
Bonjour.
Qui s'est demandé avec son équipe si les messages destinés à nous faire faire plus d'activités physiques nous rendent finalement plus coupables qu'actifs, et on en reparlera un petit peu plus tard. Lucie Lapierre, bonjour.
Bonjour.
Responsable de l'innovation à Québec en forme. Elle va nous parler de l'après-message. Parce qu'une fois qu'on est convaincu qu'il faut bouger plus, comment on fait pour changer l'environnement pour qu'il nous aide à être plus actifs, pour que l'environnement nous aide à manger mieux aussi. On en parlera aussi plus tard. Et tout d'abord, François Lagarde, expert conseil en marketing social. Bonjour, M. Lagarde.
Bonjour.
Alors, la publicité qui nous veut du bien, c'est le marketing social. On commence avec vous, parce que du côté de l'efficacité des messages de santé publique qui commencent à ronronner un peu, là, mangez plus de légumes, ne fumez pas, soyez plus actifs. Est-ce que les experts en santé publique commencent à sonner comme des nouveaux curés? Est-ce qu'on nous sermonne?
Je vous dirais que si derrière votre question se cache l'idée que les communications en santé publique se résument à des injonctions contraignantes émises par des gens qui veulent contrôler la population, c'est pas le cas. L'information a beaucoup évolué en santé publique. Je pense qu'on est plus dans le domaine de l'information et de la persuasion. Et ça occupe un espace, ça règle pas tout, mais ça fonctionne quand même.
Mais pour persuader, il faut aussi se démarquer, parce qu'on est abreuvé. Oui, il y a les messages qui nous parviennent, qui viennent des experts en santé publique, mais il y a aussi, évidemment, plusieurs sources d'informations. Comment faire pour que les bons messages, les vrais messages, nous parviennent et attirent notre attention?
Mais je vous dirais, essentiellement, ça dépend du groupe qu'on vise, là, les jeunes, etc. Mais je vais vous donner un exemple télévisuel. Il n'y a jamais eu au Québec autant d'émissions de télé sur la bonne bouffe qui allie saveur et santé.
C'est vrai.
Alors, c'est une façon de communiquer.
Bien
oui. Donc, au lieu de justement tenter de passer un message extrême, de manger de façon des graines et granola tout le temps, c'est pas la question. Alors, je pense que les campagnes de communication en santé publique ont beaucoup évolué et sont capables de faire valoir les avantages, le plaisir et les avantages santé aussi.
Est-ce qu'il y a des grands ratés? Est-ce qu'il y a des moments ou des exemples que vous avez étudiés comme expert en marketing social qui vous font dire « alors là, on était complètement à côté ».
Il y a un exemple américain qui est assez hallucinant. La plus grande campagne de communication santé dans l'histoire de l'humanité, c'est la campagne anti-drogue américaine. On s'est aperçu qu'il y a plus de jeunes qui consomment la marijuana après la campagne. Cette campagne-là a une valeur de 2 milliards de dollars. Et l'effet paradoxal s'est produit parce que les jeunes ont essentiellement conclu que si il y a tant de pubs anti-drogue, ça doit être que tout le monde prend de la drogue, donc je devrais en prendre.
Donc si j'en prends pas, c'est moi qui n'est pas normal.
Voilà.
Alors on a fait une nouvelle norme avec ça. Suzanne Laberge, je vais avec vous parce que bon, les messages incluent évidemment l'alimentation, on en parle beaucoup, mais beaucoup l'activité physique,
énormément.
On nous dit de bouger plus. Mm-hmm. Et vous, ce qui vous a intéressé, c'est la perception que nous, on en prend pour savoir ce que ça suscite comme sentiment chez nous. Et d'après votre travail au groupe de la
chez
santé des médias,
oui.
Qu'est-ce que vous avez trouvé comme sentiment?
Alors, on a trouvé qu'il y avait pour une personne sur cinq un sentiment de culpabilité. On s'entend qu'un but, le but d'un message, d'une publicité sociétale, c'est d'inciter à adopter de bonnes habitudes de vie, des choses comme ça. Et on veut pas générer de la culpabilité, de l'anxiété, du découragement. Alors, il faut bien s'assurer, c'est un principe de santé publique, de ne pas avoir un effet de malfaisance, mais bien seulement un effet de bienfaisance. Or, l'effet de bienfaisance, c'est que on souhaite que les gens bougent davantage. Or, il semblerait, d'après le sondage qui a été fait auprès de 1000 Québécois, que seulement 25% de la population dit « oui, ça m'incite à bouger ». Dans les gens qui ne sont pas incités à bouger, parce qu'ils ne peuvent pas, plusieurs d'entre eux, c'est parce que c'est impossible, mais il y en a à peu près, donc, 1 sur 5 que ça génère de la culpabilité. La culpabilité...
Ça peut être bon,
mais ça ne dure pas longtemps. Alors, pour la moitié des gens qui se sentent coupables, c'est la culpabilité, sa préoccupation de très courte durée. Mais pour d'autres, par contre, ça va générer effectivement de l'anxiété, du découragement, et puis d'autres, une préoccupation quasi constante. Alors, c'est là où on peut causer des effets préjudiciables non intentionnels et bien sûr, on doit être vigilant à la chose. Et c'est la raison pour laquelle la santé publique se préoccupe autant des effets non intentionnels pour les prévenir que des effets intentionnels, c'est bien sûr de bouger plus.
Est-ce qu'on est tous égaux devant la culpabilité? Est-ce que vous avez décortiqué un peu les échantillons pour voir qui souffre de cette culpabilité un peu plus?
Effectivement, nous sommes tombés sur une tristesse qui est un constat souvent observé. Les femmes sont plus coupables. Alors, c'est le double de femmes qui sont plus coupables que les hommes. Étonnamment, pour l'activité physique, les gens qui ont un surpoids ne se sentent pas plus coupables. Les gens qui ont un poids normal se sentaient autant coupables, il y avait autant de gens au poids normal qui se sentaient coupables que des gens avec un excès de poids. Alors, on s'est posé comme question pourquoi, étant donné que c'était un sondage, on pouvait pas leur poser la question, c'était des questions fermées, mais on a hypothèse explicative que c'est parce qu'ils espèrent retirer de la pratique d'activité physique des bénéfices autres que la perte de poids. Par exemple, toutes sortes de prévention de maladies, le diabète et autres, l'hypertension. Alors, c'est ces bénéfices-là qu'ils souhaitaient retirer. Et donc, le fait de ne pas faire de l'activité physique telle que conseillée par les messages, ben, ils se sentaient coupables.
Ils se sentent coupables peut-être aussi des fois, mais ils se sentent aussi impuissants parce que des fois, c'est pas possible pour eux de passer du message à l'action. Parce que, bon, il y a peut-être des limitations physiques, mais il y a des limitations dans l'environnement physique aussi. Et là, je me tourne vers Lucie Lapierre de Québec en forme parce que vous, justement, vous êtes en train de colliger un magnifique catalogue des initiatives qui fonctionne pour que dans l'environnement des quartiers, des municipalités, on facilite l'activité physique.
Oui, effectivement. Ce à quoi vous référez, c'est notre collection Bon Coup. C'est pas facile à aller colliger parce que les gens sur le terrain font les actions, les interventions, puis après, ils passent à autre chose. Alors, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on essaie de faire tomber les barrières, rendre accessible le fait de bouger et aussi de sainement décemment. Donc, on travaille sur les barrières. Et souvent, en termes d'accès, c'est la proximité. Je vous donnerai comme exemple parce que c'est ça qu'on veut faire illustrer. Dans certains coins, à Malartic, par exemple, on voit que le transport est une difficulté majeure. Alors, ce qu'on a fait, c'est que via Internet, Facebook, les gens se sont dotés collectivement, là, j'entends, là, un site où l'offre de services est disponible et l'offre de covoiturage également.
Je m'en vais à l'aréna ce dimanche, je peux prendre des passagers qui sont intéressés.
Voilà. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que le temps est une barrière majeure et leur accompagnement des enfants en auto gruge aussi sur le temps des parents. Oui. Alors, pourquoi maximiser tout ça? Et on s'entend que avec Québec Enfant, on travaille avec une unité qui est un regroupement de partenaires. Alors, c'est le secteur municipal, scolaire, communautaire, tous ensemble, on peut porter plus loin.
Et on peut grossir. À Laval, il y a un exemple, entre autres, d'une école où on voulait aller à vélo, où c'était un petit exemple, et avec l'intervention, avec tout ça, avec la sensibilisation, c'est devenu beaucoup plus grand.
Tout à fait. Le cas Chaumédé, qu'on appelle, et on avait un transport, on avait le projet Mon aller à l'école à vélo de Vélo-Québec, qui est fabuleux. Pourtant, on cible 3 écoles, on joint tous les partenaires autour, on inclut dans un plan action triennal, et ça décolle, en fait, c'est le cas de le dire, la municipalité s'implique, on voit une vision plus large, on adresse le quartier au complet pour la mobilité des enfants à pied, à vélo, sur une perspective de beaucoup plus long terme, avec les urbanistes qui vont revoir tous les trajets, qui vont vraiment s'attabler pour rendre l'accès à pied, à vélo, sécuritaire.
Et pas juste à l'école, à la bibliothèque, à la piscine, toutes les destinations enfants.
Juste pour la mise de fond, elle est quintuplée. Alors, à plusieurs, c'est vrai qu'on va plus loin.
Et quand j'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, j'ai dit, ou en début de reportage, j'ai dit peut-être que l'environnement peut nous aider à mieux manger. Comment est-ce que, par exemple, dans les municipalités, on peut nous inciter à mieux manger?
Autre exemple où, là, les producteurs agricoles se sont joints parce qu'on avait l'agriculture pour les jeunes, c'est peut-être mal perçu. Alors, on s'est joints, on se dit, on a besoin de relève, on veut intéresser nos jeunes à manger sainement. Alors, on fait un projet collectif, incluant visite à la ferme. Alors, pour intéresser les jeunes, ça, c'est aussi gagnant. Les petits potagers pour jardiniers, c'est autre projet. On inclut un projet de potager à l'école. Les enseignants s'impliquent pour le bénéfice des enfants. On goûte aussi, question de saveur, question de nouveauté.
Ah, une fois qu'on goûte, on est accro.
Et voilà.
Et ça, par exemple, vous adressez aux décideurs. François Lagarde, les grandes campagnes de publicité, ça s'adresse au grand public. Les décideurs, il faut leur parler différemment. Il ne faut pas leur parler des grands problèmes. Il faut leur arriver avec des solutions concrètes. Vous devez le vouloir, le portfolio des bons exemples.
Exactement. Les décideurs, qu'ils soient des administrateurs scolaires, municipaux, des élus, ils veulent pas acheter des problèmes, ils veulent acheter des solutions. C'est des gens assez pragmatiques, ils veulent des solutions relativement simples, efficaces, éprouvées et pas chères. Et il faut réfléchir, nous, en santé publique, comment on en trouve des solutions puis comment on les présente à ces décideurs-là, en respectant le fait qu'eux-mêmes ont des contraintes budgétaires, politiques, administratives et le reste. Alors, c'est un art, ça aussi, on appelle ça le plaidoyer en santé publique, et ce plaidoyer-là doit être bien exercé auprès de grand nombre de décideurs.
Et finalement, il faut donc concevoir autant des campagnes qui s'adressent à un grand public et qui réussissent à faire bouger, à faire changer les habitudes de vie que des campagnes ciblées pour les décideurs. Ça fonctionne pour le grand public des fois? Quand vous parlez de la marijuana tout à l'heure, c'était un échec, mais des fois, ça fait changer ses habitudes de vie?
Ah, c'est très clair. Je pense qu'un des exemples qui est le mieux documenté, c'est le tabagisme au Canada, où on est passé d'une majorité de fumeurs à moins de 20 %, mais ça prend du temps. Il faut s'investir dans le temps. Ça prend une génération.
Après une génération, il faut recommencer souvent.
Bien sûr.
Parce que les maladies transmises sexuellement, les ITSS, entre autres, c'est un exemple comme ça. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup. Je rappelle le nom de vos invités. Donc, Suzanne Laberge, anthropologue, kinésiologue à l'Université de Montréal. Lucie Lapierre, responsable de l'innovation à Québec en forme. Et François Lagarde, expert conseil en marketing social. Merci à vous trois.
Ah oui, oui.
Et donc, je rappelle que cette première heure vient de se terminer. Un mot pour vous inviter à ne pas manquer ce soir à 18h30 à la télé de Radio-Canada Découverte. Nos collègues vous présenteront des reportages sur les obus du lac Saint-Pierre, le site ski paralympique et la punaise de lit. Un problème de santé publique qui est très intime, ma foi. En tout cas, la suite des Lumières après le bulletin de nouvelles.
Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours à l'équipe, pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Nous sommes toujours sur le plancher et devant les participants des journées annuelles de santé publique à Montréal. Alors, au menu de cette deuxième heure, il y a une discussion sur les professionnels de la santé publique face aux grands débats et dans les grands débats de société. Mes invités sont déjà avec nous. Je les présente dans quelques secondes. Un tour d'horizon ensuite par Gaëlle Lucia Berdou d'une autre grande question de grande actualité, Internet et santé. Chantal de Sylvestava enchaînera avec les défis de la promotion de la saine alimentation et Sophie-André Blondin terminera avec les affres des relations de couple quand elles tournent au vinaigre et même à la violence. Parfois tout ça dans une deuxième heure bien remplie. Alors donc, trois invités effectivement à la table des années-lumière pour discuter de notre prochain sujet, le rôle des intervenants en santé publique dans les débats de société. La santé publique, effectivement, met son nez dans toutes sortes de questions. Trois invités donc pour en discuter. D'abord, Damien Contandriopoulos, professeur à la Faculté des sciences infirmières et à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Richard Lessard, directeur de la santé publique de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Et Alain Poirier, directeur national de la santé publique du Québec. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Lidier.
Alors, j'ai dit donc toutes sortes de questions. Effectivement, la santé publique intervient dans des dossiers comme le jeu en ligne, les casinos virtuels, le tracé des autoroutes, ce qu'on appelle l'environnement bâti éventuellement, les mines d'uranium sur la côte nord du Québec, les écoles de pilotage à l'aéroport de Saint-Hubert. Il y a vraiment de la santé publique partout. Alain Poirier, est-ce que c'est une bonne idée, une nécessité, un devoir d'intervenir dans ce genre de dossier-là?
Bien, vous l'avez dit, nous sommes des professionnels de la santé publique. Le médecin, par définition, même si nous en sommes, lui soigne une fois qu'il une conséquence, un problème, évidemment, on peut faire de la prévention de nature individuelle, mais notre médecine ou notre science sociale, notre science infirmière populationnelle est en amont. On travaille sur des risques, et ces risques ou ces déterminants de la santé, mm-hmm. on les appelle comme on veut, ils sont évidemment partout ailleurs que dans le seul, il y en a dans le système de santé, bien sûr,
oui, oui.
mais ils sont partout ailleurs. Donc, c'est notre travail, et la loi nous l'impose. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité un article qui dit que le ministre de la Santé donne un avis sur les lois et règlements qui peuvent avoir, qui peuvent avoir un impact sur mm-hmm. la santé de la population. Donc, au plus haut niveau, le ministre lui-même a ce mandat.
Donc, par la loi, vous devez mettre votre nez partout.
Et les directeurs régionaux de santé publique ont aussi un mandat légal, non pas dans l'organisation, mais sur eux-mêmes. Richard pourra vous l'expliquer, mais pour informer la population des problèmes, de leurs déterminants et des meilleures mesures d'intervenir. C'est la loi qui nous dit de faire notre travail et je pense qu'on le fait bien.
Mm-hmm. J'ai parlé de l'uranium sur la côte nord. Vous êtes allé, Alain Poirier, parler de cette question-là. Ça s'est passé comment? Pourquoi vous êtes allé là, vous, avec votre chapeau de directeur de la santé publique, parler d'uranium?
Ouais, c'est peut-être parce que j'avais porté le chapeau de sauveur de H1N1 ou je sais pas quoi. On se demande, allez donc voir qu'est-ce qui les préoccupe tant, parce que les mines, il faut faire une grande distinction entre le radon, pour lequel nous sommes tous exposés, hein, c'est la deuxième source de cancer du poumon ici, après la cigarette, bien sûr, mais le radon est une source naturelle, nous vient. Et c'est pas les mines, il nous vient de la planète Terre, le radon. Donc, il faut faire la distinction entre le radon qui nous affecte et pour lequel tous les Québécois doivent se préoccuper d'une manière ou d'une autre.
Faut pas dormir dans le sous-sol, en gros, là.
C'est pas tous les sous-sols, mais donc on a tout un programme actuellement là-dessus sur le radon, mais pour tout le Québec.
Oui.
Quand il y a une mine qui risque de faire du forage ou se développer dans un coin, c'est une toute autre chose, et le radon qui est sorti dans l'air libre, il est pas problématique, en gros. Donc, il y avait des médecins, non pas de santé publique, mais des médecins à cette île qui se préoccupaient de cette question de façon légitime, qui ont sorti des études associées avec des mineurs, mais des années 50. Donc, il fallait un peu rétablir cette discussion que nous dit la science? Quel est le vrai risque? Et on a confié au directeur de santé publique du coin, le Dr Cloutier, de faire ce travail.
Dans ce cas-là, ce n'était pas de tirer la sonnette d'alarme, c'était de rassurer, au fond.
En fait, dans ce cas-là, c'était d'écouter pour voir quelles sont vos préoccupations. Puis écoutez, on va travailler ensemble parce que la population est préoccupée. Quand des médecins sur la place publique, dans ce cas-ci, ce n'était pas des médecins de santé publique, mais ils disent qu'il y a un problème et qu'ils vont s'en aller, vous attendez un peu, avant de s'en aller, vous créez peut-être un problème plus grand que celui qui pourrait exister si on décide de forer. Donc, parfois, quand on mesure un risque ou qu'on en discute, discute. Il faut parfois ramener les gens vers le centre. C'est pas si grave, ou l'inverse. Donc, on essaie, nous, de donner un peu une vision sur les risques aux gens pour qu'ils prennent après leur décision.
Richard Lessard, j'ai parlé du jeu en ligne de l'Auto-Québec. Ça a été votre dernier grand dossier, votre dernière grande bataille. Le contexte de votre intervention, le pourquoi, le comment de votre intervention sur cette question de vos amis de l'Auto-Québec?
Oui, ben, la légitimité d'intervenir, c'est l'impact sur la santé. S'il n'y en a pas, on n'a rien à dire. Mais s'il y en a une, il faut parler. Et le contexte, là, c'était le jeu en ligne, en fait, un casino dans chaque maison. Il y a des impacts négatifs importants. C'est sûr que l'Auto-Québec est une société d'État. Et quand on a étatisé le jeu au Québec, on s'attendait, avant l'Auto-Québec, avant que le jeu soit étatisé, il y avait des impacts sur la santé des gens qui jouaient un peu partout.
Oui.
Mais la journée où on étatise le jeu, on ne s'attend pas d'une société d'État à ce qu'elle développe le jeu autant que le privé ou d'autres l'auraient fait. On s'attend à ce qu'elle la développe à une juste mesure. Et quand on rajoute des programmes, en particulier celui du jeu en ligne, et on sait que le jeu en ligne est délétère, il y a des problèmes importants sur la santé que ça crée.
Puis on a des études là-dessus.
Ça nous questionne, et c'est un des pires avec les loteries vidéo. On se dit, pourquoi une société d'État en met tant que ça? Pourquoi aller jusque-là? S'il faut aller jusque-là, quels moyens prend-on pour essayer d'amoindrir ou de moindrir les problèmes que ça va créer? Et c'est là qu'on a demandé un moratoire d'un an parce qu'on veut être mieux préparé. On pense que la préparation n'est pas adéquate présentement. On ne veut pas simplement subir les conséquences. On peut prévenir puis amoindrir. Et on a demandé également un comité qui va se pencher sur l'éthique et le jeu parce que ce n'est pas normal, en tout cas, de ce qu'on perçoit, que l'Auto-Québec décide quand est-ce qu'elle accélère ou quand est-ce qu'elle diminue.
Mais on va vous dire, c'est pour rapporter des beaux dollars au gouvernement pour payer, entre autres, les services de santé publique, par exemple, pour avoir de la meilleure santé publique?
Ben moi, j'y crois pas parce qu'en même temps, on nous crée des problèmes. Donc, ça ne donne rien de se créer des problèmes s'il faut payer pour les guérir après. Alors, c'est là qu'est notre intervention. Nous, on cherche la cause des problèmes, on intervient sur la cause, comme le disait mon collègue. Et dans ce cas-là, on sait que la cause, c'est une plus grande offre de jeu. Et une plus grande offre de jeu, c'est pas bon pour la santé.
Damien Contandriopoulos, vous êtes vous chercheur en santé publique à l'Université de Montréal. Ces interventions sur des grandes questions sociales ou sociétales, même, c'est légitime, c'est bienvenu, c'est normal, c'est fondé?
Mon avis personnel de citoyen, mon avis de professionnel, c'est que
oui, c'est fondé. Oui, c'est bienvenu. La question, c'est est-ce que ça va créer des remous? Et je pense que par nature, ça va créer des remous. La philosophe Hannah Arendt avait dit: la science décrit, la politique agit. La santé publique, telle qu'elle est présentée ici, va se trouver par nature à l'interface. Elle, normalement, agit sur la base de la science, mais les deux pieds dans la politique, parce qu'elle vise à transformer le monde et pas juste à le décrire. Donc, par nature, elle est un contre-pouvoir, et elle va créer des remous parmi les autres acteurs politiques qui se sentent interpellés par son action. Est-ce que mon avis personnel, c'est que c'est un contre-pouvoir qui est bénéfique au niveau social? Est-ce que ça profite aux citoyens en termes de santé, en termes de bien-être? Ma conviction personnelle, c'est oui.
Est-ce qu'il y a des données scientifiques qui montrent que la santé publique, ça sert à quelque chose, ça donne quelque chose?
Je pense qu'il y en a plein. Ça va dépendre des domaines.
Voilà, mais Poirier qui chicane, qui dit je quitte cette table si ça continue. Non, mais donc il y a effectivement des données solides qui montrent que oui, il y a une utilité à ces interventions-là, non?
Des bibliothèques au complet.
Oui. Bon, la réponse est courte. Participation citoyenne. On va parler de ça maintenant parce que ça a fait l'objet au moins d'une journée de discussion, la participation citoyenne. C'est important d'en parler parce que les questions de santé publique, c'est souvent des questions, je dirais, citoyennes, sociétales, qui se trouvent à l'interface entre ce qu'on veut comme citoyen ou ce qu'on veut comme santé. Non, il n'y a pas seulement une question de savoir d'expert, il y a aussi une question de savoir citoyen. Damien Contandriopoulos, vous avez tenu des propos que vous aviez qualifiés vous-même de dérangeants, d'un peu iconoclastes sur la participation publique. Vous ne croyez pas à la participation publique dans les grands dossiers, l'orientation des dossiers de santé?
Oh, je crois beaucoup à la participation publique. Est-ce que je crois que la majorité des citoyens au Québec sont capables de connaître, comme un professionnel de la santé publique, les différences entre les expositions au radon, l'impact du jeu en ligne ou le lien avec la vaccination? Je pense que malheureusement ou naturellement, ce n'est pas le cas. Et donc, il est normal que l'intérêt public des citoyens passe non seulement par sa capacité de s'exprimer, on élit les représentants, on prend la parole, mais aussi par le fait que des gens qui ont les compétences et les connaissances vont prendre la parole, quitte à déranger, pour défendre l'intérêt du public.
On va vous traiter d'affreux technocrate.
Je suis un affreux technocrate.
Au moins, c'est clair. Et vous dites, au fond, le grand mythe de la participation, c'est de dire le citoyen ordinaire, monsieur, madame, tout le monde participe. Et vous dites, vous, non, les gens qui participent, c'est justement des gens pas ordinaires, c'est des gens qui ont des intérêts ou qui représentent des groupes d'intérêts.
Participer implique un coût, et pour qu'on fasse l'effort de participer, il faut qu'on y retrouve un bénéfice qui dépasse le coût. C'est très simpliste, le bénéfice peut être de plein de nature, y compris la conviction de faire son devoir, mais la probabilité qu'on trouve que le jeu en vaille la peine est très fortement associée au fait de défendre des intérêts spécifiques. Et je ne pense pas du tout que ce soit mal, il faut simplement prendre en compte du fait que les gens qui participent en santé sont des gens qui sont, à divers titres, touchés, impliqués, partie prenante.
Vous avez dit, si on dit demain que tous les Rogers n'auront plus accès désormais aux services de santé publique, on pourrait avoir une bonne mobilisation de tous les Rogers, effectivement.
Je pense que ceux qui prendront la parole s'appelleront principalement Roger.
Alain Poirier, vous, comme directeur national de la santé publique, vous êtes en haut de la pyramide, hein, vous êtes loin de la base, au fond, on pourrait penser ça. Est-ce que vous trouvez que le citoyen a un rôle important à jouer dans les grandes orientations de santé publique, dans les dossiers de santé publique?
Ben, dans tous les dossiers, il devrait avoir une plus grande importance. Ce que Damien fait référence, c'est que les outils ou ceux qu'on entend parler, l'implication des gens, évidemment, elle est fondamentale, mais elle est biaisée par les médias, notamment, des groupes de pression.
Oui. Non, c'est vrai.
Il y a bien d'autres méthodes d'outils. Je n'ai pas participé à la journée, mais je connais assez bien tous les outils développés pour aller chercher, que ce soit des jurys de citoyens, des débats délibératifs. Il y a plusieurs méthodes qui pourraient, quand ils sont publics et connus, l'Institut du Nouveau Monde en est une formule intéressante, qui amène des dossiers à la place publique, faire participer des gens. Il y a beaucoup, beaucoup de ces méthodes. Dans mon premier rapport sur l'état de santé de la population, c'est de ça dont je parlais dans un certain chapitre, pour dire que la participation sociale, il faut trouver, les utiliser. On essaye à l'occasion, mais là, à partir du moment où on ouvre à une population pour l'entendre parler sur des enjeux éthiques, l'euthanasie ou autre, il y a des gens qui s'inquiètent. On a essayé de le faire à quelques reprises. Même dans la chaîne 1, peu de gens savent qu'on le fait dans toutes les provinces pour connaître les valeurs des Canadiens sur les choix et les priorités qu'on allait faire. Mm-hmm. Quand on a choisi, et ça c'était avant, pour les antiviraux notamment, quand on a choisi nos groupes prioritaires à vacciner, on faisait passer, par exemple, les professionnels de la santé avant. Est-ce que ça va passer? Comment les gens réagissent à cette notion de réciprocité? On a fait des tests et c'était très positif.
Donc c'est de la consultation plus que de la participation, là?
C'est-à-dire que là, c'était des consultations. Ça fait partie dans la panoplie d'une cinquantaine d'outils, là, c'est dans la hiérarchie, ils en font partie. Mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes qu'on n'utilise pas pour mieux connaître et élever le niveau de compréhension des gens, en notamment les rendant visibles et publics. Et l'Angleterre, il y a d'autres pays qui utilisent ces outils en prenant le commun des mortels, en les formant. Parce que dans le cas du H1N1, la fameuse consultation que j'évoquais tantôt, antiviraux, on a passé une fin de semaine avec des gens identifiés au hasard, qui ont accepté. On les a informés de tout ce qu'on voulait faire et on les a laissés délibérer pendant toute une journée pour s'enrichir de où sont les valeurs des gens face à une lutte à la pandémie. Mm-hmm. Donc, oui, ça existe, ces outils-là, on les utilise pas assez.
Richard Lessard, je m'en vais à vous. Je pose un peu la même question. Est-ce que consulter le citoyen, le faire participer, même éventuellement à la prise de décision, le citoyen peut-être des fois va dire autre chose que le gouvernement, qui est votre employeur? Comment est-ce que la santé publique navigue avec tout ça, ou veut naviguer, ou peut naviguer?
La participation citoyenne, pour nous, c'est incontournable. Ce qu'on a fait, surtout jusqu'à présent, c'est d'informer le public sur les problèmes et puis les solutions. Mais petit à petit, on s'aperçoit, par exemple, donner un exemple concret, le zonage autour des écoles secondaires, où on voit beaucoup de fast-food autour de l'école. Pour la population, c'est normal qu'il y ait des fast-food autour d'une école secondaire, mais si on veut diminuer l'obésité et que les enfants mangent à l'école et qu'ils n'ont pas mangé là, il faut que le niveau politique municipal intervienne, puis change les règlements de zonage et interdise, mettons, la présence des fast-food autour de l'école. Pour en arriver là, à ce changement social-là, il faut engager le dialogue avec les parents, avec les gens qui vivent autour de ces quartiers-là, pour qu'ils comprennent la problématique. Et ils pourraient très bien décider que, quoi qu'en pense la santé publique, le fast-food va rester autour de l'école, mais il faut s'engager dans ce dialogue pour comprendre les réactions du public, puis qu'ils comprennent nos arguments. Donc, c'est là-dedans, c'est comme ça qu'on va faire avancer les idées.
On s'en va vers la fin maintenant. On a parlé de groupes d'intérêt, hein, de consultation ou de participation qui émanait plutôt de groupes d'intérêt que de citoyens en général, Damien Contant-Riopoulos. Qu'est-ce qu'on peut penser de groupes, d'associations, ou disons d'une fédération de médecins dont qui sont spécialistes, par exemple, en santé publique, mais qui sont spécialistes parfois en d'autres choses, et qui interviennent au nom de l'intérêt public, mais à des fins un peu corporatistes. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ce genre de questions? Après, je vais la poser à nos deux membres de la Fédération des médecins.
Est-ce qu'on peut se prémunir contre ça? J'en doute énormément. On est dans un système qui est fondé sur l'intérêt du public. Qu'on soit un élu, qu'on soit un représentant d'un groupe, qu'on soit un citoyen, on ne peut parler qu'au nom de l'intérêt du public. Donc, il faut s'attendre...
Même quand c'est un intérêt corporatiste.
D'autant plus. Mm-hmm. L'efficacité du discours va reposer sur la capacité de se présenter comme défendant l'intérêt du public. Quelqu'un qui arriverait dans le système socio-sanitaire et prendrait la parole au nom de son intérêt propre aurait une efficacité politique nulle. Mm-hmm. Donc, c'est les règles du jeu et il faut s'attendre à ce qu'on les voit. Je pense que de la part des citoyens, ce qui est important, c'est d'avoir une capacité critique d'analyse de qui parle et pourquoi il parle.
De pourquoi il parle. Richard Lessard, est-ce que... Bon, vous êtes probablement médecin spécialiste en santé publique, membre de la fédération. Quand on voit, pour le dire clairement, la fédération des médecins spécialistes avec son président qui dit voilà comment on devrait intervenir dans le débat public sur certaines orientations du débat public. Comment vous sentez-vous comme médecin et comme membre d'une fédération?
Je pense qu'il faut que les points de vue soient entendus et plus ils sont transparents, plus ils sont visibles sur la place publique, mieux c'est. Parce qu'il y a plein d'enjeux puis de lobbies qui sont faits par en dessous que la population ne voit pas. Et qui a beaucoup d'influence sur les décisions qui sont prises. Alors moi, j'aime mieux le voir à la télévision, l'entendre, ça fait partie du débat public par la suite, mm-hmm. et c'est beaucoup plus sain.
Oui, Alain Poirier, le mot de conclusion, parce qu'effectivement, c'était pas clair dans ce que disait votre patron, votre grand patron, là, de médecin spécialiste.
D'accord, dit comme ça. Moi, ce qui me préoccupe dans les groupes de lobby, c'est l'équilibre qu'il faut avoir, parce que tantôt j'ai parlé du rêve de faire participer les citoyens, mais la réalité n'est pas là. Donc, si on parle de la réalité, ce qu'on a, c'est des gens qui ont des sous pour faire de telles pressions. La vision des gens moins riches, la vision des gens pauvres, des organisations communautaires, des organisations environnementales n'est pas souvent là. Donc, ça fait partie aussi de nos responsabilités, nous, comme gouvernement, de s'assurer qu'on finance des organisations pour les aider à mobiliser sur un autre côté de la médaille. Quand on a lutté contre l'industrie du tabac il y a quelques années, il y a un ministre de la Santé, un ancien ministre de la Santé que j'ai vu dans les corridors tout à l'heure, qui nous a dit « Heureusement qu'on a eu des groupes pro-santé et puis qu'on les a soutenus, nous, le réseau de santé publique, à être visible pour dire les grands feux du Morier ou je ne sais plus comment ils s'appellent, Benson & Hedges et compagnie. » Et heureusement qu'ils sont venus nous dire qu'il y a des problèmes associés parce que derrière tout ce... Cet autre lobby, il y a des fortunes qui nous viennent parfois de l'industrie, etc. Donc, il faut... La FMSQ, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'argent dans la Fédération des médecins spécialistes. Est-ce qu'on soutient la capacité de faire de la publicité ou de faire passer l'autre message? Ça, c'est ce qui me chicane, peu dans le lobby, s'il y a un déséquilibre dans les voix qui s'expriment.
Eh bien, merci beaucoup Alain Poirier, directeur national de la santé publique, également Richard Lessard, directeur de la santé publique de Montréal, et puis Damien Contandriopoulos, professeur à la faculté des sciences infirmières et à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission enregistrée vendredi à Montréal, au Reine-Élisabeth, pendant les 13e journées annuelles de santé publique. Alors, si vous avez eu un problème de santé récemment ou si vous vous êtes simplement posé des questions en rapport avec votre santé, bien, il y a de fortes chances que vous ayez eu recours à Internet pour vous informer. Et ça n'a rien d'étonnant, Gaëlle, Lucia Berdoux, la santé est de plus en plus présente, on le sait, sur le web.
Oui, Yannick, c'est un des secteurs qui augmente le plus sur la toile, à tel point que ça a suscité non pas une, mais deux journées entières de discussion à ces journées annuelles de santé publique autour de ce qu'on appelle tout simplement l'Internet santé. Journée auquel participaient nos invités. Tout d'abord, Marc Lemire, chercheur au groupe de recherche interdisciplinaire en santé de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Lemire.
Bonjour.
Et Christine Toher, chercheur au Centre de recherche médias et santé de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Toher.
Bonjour.
Je commencerai par vous, Madame Toher. Dans le fond, quand on parle de cet Internet santé, on parle de beaucoup de choses, mais les gens, quand ils vont sur Internet, qu'est-ce qu'ils cherchent?
Alors, il y a différents types de problématiques qui attirent les gens sur Internet. Bon, c'est très lié aux pathologies, informations sur une pathologie précise, sur des symptômes. Je suis face à tel ou tel symptôme et je vais aller valider que j'ai ou non telle maladie. Ça peut être par rapport à une procédure. Je vais avoir un test diagnostique bientôt, je vais en savoir plus, donc je veux me renseigner. Ça peut être aussi tout ce qui est saines habitudes de vie. Je veux avoir des informations sur la nutrition, sur les pratiques d'activité physique, notamment chez les jeunes. C'est un des thèmes de recherche privilégiés. Et un thème aussi qui ressort très largement dans les recherches, c'est le médicament. On m'a prescrit tel traitement ou j'ai entendu parler de tel traitement. Est-ce qu'il est approprié pour moi ou je ressens tel ou tel effet secondaire? Est-ce que d'autres l'ont aussi en ont aussi fait l'expérience? Donc ça va être finalement des quêtes qui sont très diversifiées.
Et dans tous ces cas-là, dans le fond, on va arriver dans le cabinet du médecin un peu plus informé ou peut-être moins bien informé, ça dépend. Et on dit beaucoup que les praticiens, les professionnels de la santé ont un peu peur de ça. Est-ce que vous l'avez entendu pendant ces journées de santé publique?
Mais finalement, vis-à-vis d'Internet Santé, on se trouve vraiment à avoir deux discours. Un discours qui est très, très enthousiaste d'un côté avec on va avoir ce patient autonome, expert. Et c'est un petit peu le type de discours qu'on trouve notamment en Grande-Bretagne dans les documents qui vont valoriser le développement d'une espèce de première ligne sur Internet via les sites du ministère. Et d'un autre côté, on a un discours très pessimiste avec des individus et notamment des professionnels qui vont insister sur le fait que l'information est assez incomplète, parfois douteuse, que le patient va être mal informé, qu'il ne saura pas trier l'information, qu'il n'est pas à même de pouvoir évaluer ce qui peut lui être profitable. Et en fait, ces discours-là, on les retrouve. J'étais assez frappée comme quoi, dans le colloque, on a vraiment ces deux points de vue qui s'expriment encore.
Mm-hmm. Et Marc Lemire, vous avez un peu regardé, justement, comment les internautes vont s'approprier cette information-là, ce qu'ils vont en faire, surtout en regardant un site qui est quand même bien connu au Québec, Passeport Santé. Et vous ne l'avez pas choisi par hasard, évidemment, notamment parce qu'il est très populaire, j'imagine?
Par sa popularité, mais aussi sur ce site, il y a la présence ou coexistence de différents savoirs. Hein, le savoir hétérodoxe qui vient des médecines alternatives complémentaires. Je dis hétérodoxe par rapport aux connaissances du domaine biomédical. Et donc, cette présence simultanée, dis-je, permet donc aux utilisateurs d'avoir accès à une connaissance diversifiée. Et l'intérêt, c'est justement de voir, bon, compte tenu des motivations qui sont multiples, qu'est-ce que vont faire les gens avec ça? Et on voit bien qu'on ne peut comprendre le potentiel pour le patient que si on se tourne vers lui, ses pratiques, son appropriation. Et on voit qu'il y a au moins trois façons différentes d'utiliser l'information, faire ce qui est prescrit. Donc ça, c'est vraiment adopter les bonnes conduites que prescrivent les professionnels de la santé. Et ça, c'est rassurant pour
le monde. Donc, ils vont aller contre-vérifier, dans le fond, ce qu'on leur a dit.
Oui, et faire bien ce qui est
l'appliquer le mieux possible.
Mais on retrouve aussi un autre profil d'utilisateur. Là, c'est l'idée qu'on a des gens qui veulent faire des choix personnels en fonction de leur jugement et comparer l'information. Et on est plus dans la logique d'un consommateur d'informations qui veut faire des choix. Et là, ça pose des questions tout à fait particulières. Il y a aussi un autre profil qui est celui d'utilisateurs qui veulent en fait échanger par le dialogue, par le savoir de pairs, donc des gens qui ont vécu l'expérience d'un problème de santé, qui ont vécu donc des problématiques. Ces gens-là peuvent leur apporter quelque chose. C'est du moins ce qu'ils croient. Et ce qu'on observe finalement, c'est que tout le monde a l'impression d'être un peu plus compétent et en contrôle grâce à l'information qu'il consulte. Mmh.
Et ça, ce partage, c'est ce qu'on appelle des forums, dans le fond, et la santé est un thème très fréquent dans ces forums-là sur Internet.
Tout à fait.
Oui, oui. Alors, est-ce que, dans le fond, vous dites qu'il y a plusieurs types d'utilisateurs, on ne peut pas dire si on va sur Internet pour s'informer sur sa santé, c'est pour telle raison, il y en a plusieurs, elles sont multiples. Ce que vous décriviez, c'est quand même plutôt positif, si on veut.
C'est positif si on se dit... Si on constate au fait que les gens ont accès à de l'information beaucoup plus facilement.
Oui.
Quelle est la qualité de l'information, c'est un problème, bien sûr. Il y a des sites, justement, de référence comme Passeport Santé qui peuvent faire le tri entre différents types de savoirs, mais leur donner aussi une cote, c'est-à-dire on peut avoir confiance en ceci, il y a des preuves, et on peut aussi dire, ça, c'est pas prouvé, mais c'est traditionnellement connu comme étant bénéfique, par exemple.
Mm-hmm. Il y a, par contre, des cas où, justement, cette information n'est pas nécessairement très bonne, et vous avez fait d'autres travaux, vous, sur des sites de pharmacie en ligne. ligne. Alors là, c'est une autre notion. C'est des sites où les gens vont acheter des médicaments avec et parfois même sans prescription.
Oui, on n'est plus dans l'informationnel, on est dans le transactionnel. Et là, ce qu'on voit, c'est un nouveau rapport qui peut s'instaurer, un rapport marchand beaucoup plus radical avec le médicament. Et c'est aussi donc la perte de repère dans certains cas, à savoir d'où vient le médicament, parce qu'au fond, c'est toute la chaîne de circulation du médicament qui devient opaque et qui pose des problèmes. Bien sûr, tous les sites de vente de médicaments en ligne n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il y a différents modèles, mais il y en a peut-être 84% des sites qui, au fond, transforment radicalement la façon qu'on régule ou qu'on surveille la régulation du médicament, de sorte que celui qui va le consommer ne sait pas du tout, dans certains cas et dans plusieurs cas, qu'est-ce qu'il va consommer comme médicament.
Et c'est peut-être le moment où l'Internet santé devient un peu l'Internet, j'ai envie de dire, danger. Et Christine Thauer, vous vous êtes intéressée peut-être un peu à ça par la bande, dans des forums, on en parlait tout à l'heure, des forums où les jeunes, entre autres, justement, échangent, mais pas nécessairement sur leur santé, mais sur l'utilisation qu'ils peuvent faire de médicaments à des fins récréatives.
Oui, tout à fait, parce que j'avais mené une recherche auprès de jeunes pour savoir qu'ils détournaient des médicaments, donc qu'ils les utilisaient à des fins récréatives. Donc ça peut être du Tylenol avec codéine que je vais prendre en dose un petit peu abusive, ou ça peut être du sirop pour la toux, j'en prends un certain nombre de bouteilles et c'est accessible directement sur les étagères des pharmacies, différents produits comme ça, du Ritalin qui a été prescrit à quelqu'un d'autre mais que je vais prendre, donc là c'est plus tout à fait récréatif. Mais pour terminer mon travail de session, et j'ai l'impression que je suis plus alerte.
Est-ce qu'on est encore dans l'Internet santé dans ce cas-là?
Et en fait, de toute façon, ces conversations, elles existaient avant. Via Internet, elles sont favorisées, elles se diffusent plus facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est vrai que les jeunes, sur ces sites-là, il y a un petit peu un effet d'arriver toujours avec un nouveau médicament à détourner. Donc, il y a un effet de diffusion de la pratique, puis même un petit peu un effet de surenchère. Je vais aller essayer un nouveau médicament, je vais en parler. Et on raconte tous ces récits d'expériences de manière très, très détaillée. Et les récits relatifs au dosage, comment l'ajuster pour avoir le meilleur high, etc. Mais en même temps, il y a aussi un certain encadrement de ces pratiques, une certaine autorégulation qui se fait, parce qu'on veut bien prendre des risques, mais si on choisit de prendre des risques avec des médicaments et pas avec des drogues illégales, c'est aussi parce que on veut aussi encadrer d'une certaine façon un petit peu les pratiques. Et quand certains individus qui vont prendre toutes sortes de médicaments à la fois vont être un petit peu décriés par les autres participants. Donc, il y a quand même un certain encadrement. Mais ça continue, ça favorise, ça entretient en fait la pratique et ça la diffuse, c'est sûr.
Et ça pose des questions de santé publique. Alors, à quel point justement les autorités de santé publique sont, elles, présentes sur le web, sont capables de suivre ce qui s'y passe, par exemple, dans ces forums?
Eh bien, on y est peu présent. Et c'est ça, l'objectif du projet, c'est vraiment d'essayer d'identifier dans ces forums qui pourraient être des vecteurs d'informations intéressants. Parce qu'il y a effectivement des individus, des participants qui émergent comme leaders. Alors, souvent, qui sont aussi leaders dans leur communauté aussi par rapport à ces thématiques. C'est un sujet dont les jeunes discutent quand même assez souvent. Et donc, d'essayer de les identifier et de les utiliser comme pour diffuser de l'information, parce que eux, ils sont très très preneurs d'informations à caractère scientifique sur les produits, et si on les informe mieux sur les risques qui sont associés à ces produits, ils seraient prêts à le diffuser. Donc on a intérêt à aller investiguer tous ces espaces d'échange pour essayer de mieux les comprendre. Déjà, ça permet de mieux comprendre la pratique, parce que c'est pas partout qu'on a des informations sur les médicaments détournés. Donc il y a pour toutes sortes de pratiques comme ça un petit peu à risque. Si on pense par exemple à tout ce qui est entouré l'anorexie, je veux dire, les blogs sur l'anorexie étaient une source d'informations vraiment très intéressante. Donc il y a plusieurs choses comme ça. Aller regarder, investiguer ces espaces d'échange et essayer d'en profiter pour diffuser de l'information. Mais ce n'est pas d'arriver, bonjour, je suis la santé publique et on va diffuser des informations. C'est d'identifier des relais d'informations.
Puis il faut que ce soit dynamique. Peut-être Marc Lemire en terminant, je ne sais pas, est-ce que des sites comme Facebook où on est tellement dans les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça pour la santé publique?
Ben moi, je suis porté à dire, faut faire attention, il y a des effets de mode, on parle beaucoup de tous ces courants-là. Jusqu'à quel point ça peut être une avenue intéressante pour la santé publique, il faut se poser la question, quelle est la nature de la communication qui est là, la fragmentation de l'information, la concentration des gens qui consultent cette information-là à travers des différentes modalités ou différents dispositifs. Qu'est-ce que ça a comme qualité, cette information-là, pour ensuite porter des jugements intéressants et développer des compétences ou un meilleur contrôle sur la santé? Sur ce plan-là, c'est sûr qu'on ne sait pas vraiment... Il faut faire attention, au fond, avec le prophétisme technologique et la réalité. Il ne faut pas s'emballer trop.
On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux.
Oui, merci beaucoup. Alors, auditeurs, auditrices, vous l'avez remarqué, hein, vous l'entendez, on est toujours sur le plancher des journées annuelles de santé publique. Il y a beaucoup d'ambiance. Les gens, en fait, sortent de la salle à manger et retournent dans leurs ateliers pour travailler encore. Un bel après-midi. Je rappelle le nom, donc, Gaëlle, de vos invités. Christine Toher, chercheur au Centre de recherche médias et santé à l'Université du Québec à Montréal, et Marc Lemire, chercheur au groupe de recherche interdisciplinaire en santé à l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Alors, vous l'avez remarqué, c'est déjà beaucoup plus calme. Les gens sont retournés dans leurs ateliers. Alors, au Québec, 22% des jeunes et 57% des adultes sont trop gros, ce qui entraîne évidemment une kyrielle de problèmes de santé. C'est une tendance lourde. Ça, c'est Chantal Srivastava qui a écrit ça sur sa feuille.
Et vous qui le lisez, Yannick Villedieu.
Une tendance donc qui se maintient, et ce, malgré de multiples campagnes d'information et de sensibilisation pour nous dire, Chantal Srivastava, de mieux manger.
Oui, je vais vous donner un autre chiffre. Je vais pas vous inonder, Yannick, mais un autre. En 25 ans au Canada, l'obésité chez les jeunes a triplé et touche aujourd'hui environ, le grosso modo, 8% des jeunes, des enfants, des ados. Alors, et pourtant, vous l'évoquez, on se fait dire qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré, qu'il faut manger plus de légumes, plus de fibres, boire davantage de lait, consommer plus de produits laitiers. Donc, on est bien informé, mais parfois, on tarde à passer aux actes, ou en tout cas, le passage à l'acte plafonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment on fait dans ce cadre-là pour améliorer ce qu'il y a dans l'assiette des Québécois pour les faire mieux manger? C'est une des questions qui a été abordée cette semaine au JASP, bien sûr, dans le cadre d'une journée thématique concoctée sous la supervision de quelqu'un qu'on connaît bien ici aux Années Lumière, la diététiste Lynne Mongeau, qui est parmi nous. Bonjour, Lynne.
Bonjour.
Je dis qu'on vous connaît bien parce que vous êtes une de nos scientifiques de l'année 2006, je crois, si ma mémoire est bonne. Et depuis ce temps-là, l'eau a coulé sous les ponts. Vous êtes aujourd'hui coordonnatrice du plan d'action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie et aussi de prévention, donc, de problèmes reliés au poids, entre autres chez les jeunes également. Alors, à table avec nos partenaires, ça, c'était le grand titre de cette rencontre que vous avez, cette journée thématique que vous avez organisée. Je pense qu'on peut dire, Lynne Mongeau, qu'il y avait un grand objectif: agir pour influencer l'offre alimentaire. Donc, on change de cible. Ce n'est plus l'individu, mais c'est plutôt l'environnement. Qu'est-ce qui cloche dans l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, les aliments qu'on a sont généralement assez salés, sucrés. Les portions qui sont servies sont généralement démesurées et on a pu mesurer cette progression-là au cours des années. Alors, on a beau faire de l'éducation, expliquer aux gens que, bon, faut manger de telle et telle façon, quand ce qui nous est servi ne correspond pas au message qu'on reçoit, on fait quoi comme consommateur? Alors, ce qu'on dit de plus en plus, c'est qu'il faut pas seulement travailler du côté de la demande, mais il faut aussi travailler du côté de cette offre alimentaire.
Mais ça, c'est très, très compliqué à faire, Lynn Mongeau, parce que quelqu'un l'évoquait durant votre journée thématique. Corinne Hawkes est venue dire, du Brésil, pour dire la chaîne alimentaire et la gestion de cette chaîne-là qui détermine l'offre, c'est un processus éminemment complexe sur lequel on a, comme gestionnaire de politique publique, très peu de contrôle. C'est difficile.
C'est sûr que la chaîne agroalimentaire est une chaîne complexe, mais ce que je pense qu'on dit aussi, c'est qu'il faut d'abord s'intéresser à bien la comprendre avant de renoncer à vouloir la changer. Mais d'un autre côté, avec la quantité de personnes qui souffrent d'un problème de poids, si on décide qu'on veut les éduquer un par un, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge non plus. Et on sait que l'éducation, de toute façon, en cette matière comme dans d'autres matières, a une efficacité qui est limitée. Pourquoi? Parce que les choix qu'on fait au quotidien, les choix de santé, c'est pas basé uniquement sur la rationalité. C'est basé sur un... Oui, notamment des automatismes, mais un tas de facteurs. Alors, notamment en matière d'alimentation, le goût. On est des mangeurs, on est des hédonistes, on aime goûter. Manger, c'est un geste social, c'est un geste fondamental. Alors, c'est pas juste une question de... On mange pas que des vitamines et des minéraux et un peu de sel.
On mange des aliments.
On mange avec les gens, c'est de l'amour, c'est bon. Alors, il faut vraiment avoir un modèle là, d'intervention qui est complexe et qui prend en considération tous ces facteurs-là.
Je vais vous faire faire très rapidement un exercice très ingrat, Lynn Mongeau. Je vous donne une politique, vous me dites oui, non et pourquoi en quelques mots. Taxer la malbouffe.
Je dirais faut examiner.
C'est pas un non, c'est pas un oui.
Mais la malbouffe, ça serait certainement compliqué, mais on pourrait penser peut-être à des créneaux de produits plus précis.
Obliger un étiquetage nutritionnel uniforme et déterminé selon des normes, comme par exemple la Grande-Bretagne.
Oui.
Les feux, rouge, jaune, vert. Vous dites oui à ça.
Oui.
Donc, rouge, on mange pas. Jaune, attention. Vert, on y va.
On mange pas.
Ouais, en tout cas.
On en reparlera peut-être
ça
plus tard.
Justement, mais... ça m'amène peut-être à dire votre politique de vision alimentaire qui a été lancée cette semaine, justement, sur les aliments, on ne mange pas. On ne veut pas dire « mangez pas ça ».
On n'aime pas dire « mangez pas des frites ». On a travaillé récemment et on a fait le lancement, justement, hier, d'une vision de la saine alimentation, qui est une vision, donc, avoir une idée en tête, des grands principes généraux qui chapeautent un peu toutes ces mesures, toutes ces actions, toutes ces interventions qu'on peut faire pour donner de la cohérence. Par exemple, si on dit qu'on a des politiques alimentaires dans les écoles et qu'on ne servira pas de frites, par exemple, par contre, on pourrait dire qu'en milieu de travail, on servirait des frites. Mais là, il faut que les gens qui interviennent et le public comprennent un peu la cohérence. Pourquoi un endroit le permettrait pas, un autre endroit le permettrait? Il y a des raisons derrière tout ça. Donc, on a sorti une vision avec un grand concept très simple. C'est qu'il y a des aliments qu'on devrait manger quotidiennement, des aliments qui sont occasionnels et des aliments qui devraient être mangés de façon plus exceptionnelle.
Comme les frites.
Oui, exactement. C'est simple, on a validé le concept, les gens comprennent ce qu'on veut dire. Et finalement, cet outil-là se destine. Il ne veut pas remplacer le guide alimentaire canadien. On est très à l'aise avec le guide qui se destine aux individus. La vision, ça sert à tous les gens qui travaillent dans l'offre, parce que c'est avec eux principalement qu'on veut travailler. Là.
Comme justement celui qui est assis à côté de vous, qui s'appelle Paul-Guy Duhamel, qui est comme vous, diététiste, qui était président de l'Ordre des diététistes. Bonjour, Monsieur Duhamel.
Bonjour.
Alors justement, vous travaillez, vous êtes directeur régional en nutrition du groupe Compass, le groupe Compass qui s'occupe entre autres d'alimentation dans les écoles.
Notamment.
Vous avez à gérer une politique, un virage santé dans les écoles qui est entré en vigueur, quoi, 2006-2007?
Exactement.
Qu'est-ce que ça change dans l'assiette? Pas de frites, c'est vrai? Vous faites quoi pour remplacer?
Dans nos écoles, là où on est, il n'y a plus de frites depuis déjà un certain temps.
Vous avez remplacé par quoi? Du riz, trop d'eau, trop plein d'eau, des légumes trop cuits? Qu'est-ce que vous avez utilisé?
On n'a certainement pas remplacé les frites par des légumes trop cuits parce qu'on ne parle pas nécessairement de la même chose
taquine,
ici.
Là.
Mais c'est certain qu'on a cherché à trouver des produits de remplacement qui fonctionnent plus ou moins bien. Il faut comprendre aussi que pour, notamment dans les écoles, manger est aussi un geste identitaire. Les jeunes semblent savoir ce qui est bon pour leur santé, mais ils préfèrent manger comme le groupe, comme la gang à laquelle ils appartiennent. Alors, offrir une offre santé dans un contexte où on essaie de bâtir son identité puis on veut ressembler aux gens avec lesquels on se tient, c'est peut-être pas tout à fait encore gagnant. On a beaucoup de travail à faire pour justement retrouver cette notion-là identitaire dans le service alimentaire en milieu scolaire.
Comme diététiste, vous qui avez à offrir, à bonifier l'offre et à remplacer les pommes de terre frites, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans une assiette? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous pouvez faire pour que les élèves ne désertent pas l'école et aillent manger ailleurs?
Je veux dire, c'est pas tellement ce qu'on peut faire, parce que je pense que le geste, en grande partie, je veux pas dire qu'il est parfait le geste, il y a un gros geste qui a été fait, Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui sont déjà des consommateurs, qui ont acquis des gestes de consommateurs et qui sont habitués de consommer, c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'ils veulent là où ça se trouve. Le problème qu'on a, c'est que lorsque la cafétéria de l'école n'offre plus l'objet qu'ils désiraient, les jeunes ont pris habitude à aller le chercher à l'extérieur. Donc, le défi maintenant, c'est comment faire pour les faire ramener à l'intérieur, donc de retrouver, de redévelopper un service alimentaire.
On barre les portes, on fait des concours, on leur fait tirer des iPods pour qu'ils restent manger à la cafétéria, peu importe.
C'est certainement une piste de solution qui a déjà été proposée. Je ne suis pas certain que ce soit gagnant à long terme. Mais le problème qu'on a, c'est que ces jeunes-là veulent manger comme leurs amis, être avec leur groupe. Et donc, il faut absolument refaire de la cafétéria de l'école ce lieu de rencontre-là qui devrait, enfin, que la cafétéria aurait dû être et qui n'est plus nécessairement actuellement.
Et justement, donc, on faisait référence à barrer les portes pour garder les élèves-là, c'est que peut-être qu'il y a une offre alimentaire concurrente, très attirante pour les jeunes. Est-ce qu'ils désertent les cafétérias depuis que vous avez le virage?
Bien, écoutez, nous, dans les chiffres qu'on a en moyenne, il y a une désertion de 10 à 15% des services alimentaires où on est. C'est certain qu'il y a des écoles où il y a des succès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désertion. Mais quand on regarde ces écoles-là, il n'y a pas d'offre alimentaire à proximité. Donc, on ne peut pas parler vraiment de succès. Mais là où il y a une concurrence à l'extérieur, et ce qu'on voit, c'est que la concurrence se développe, pas juste à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On voit des jeunes qui font preuve d'initiative, d'entrepreneurship, et qui développent aussi une vente de produits à partir de leur casier. Alors, ça fait une partie d'une réalité, mais qui n'est pas bien documentée, malheureusement.
Alors, justement, pour mieux documenter cette réalité et voir aussi comment des municipalités peuvent agir, à vos côtés se trouve, de côté Lune Mongeau, de l'autre, Nathalie Fortin, de l'Association pour la santé publique du Québec. Et vous êtes chargée de projet, justement, pour un projet, et là, je vais bien peser mes mots, Madame Fortin, qui n'est pas pour faire du zonage anti-malbouffe, mais du zonage pour limiter la malbouffe proche des écoles.
C'est ça, en effet.
Alors, on a trois municipalités qu'on a ciblées pour voir comment on pourrait utiliser les lois en vigueur dans les municipalités pour éloigner un peu la tentation des jeunes de nos écoles.
C'est ça. Le projet, en fait, c'est de voir si c'est possible pour une municipalité à partir des règlements de zonage, de limiter l'offre alimentaire au niveau de malbouffe autour des écoles. Donc, il y a trois villes qui participent au projet. C'est Baie-Saint-Paul, Lavaltrie et Gatineau. Ce qui est intéressant, c'est trois villes complètement différentes avec un milieu, une réalité différente dans les trois cas. Donc, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qui était possible de faire au niveau des lois et aussi...
Vous avez commencé l'an dernier, le projet en un an. Et l'objectif à terme, c'est de faire du zonage ou de voir comment on pourrait éventuellement le faire pour guider des municipalités qui sont intéressées?
C'est sûr, au niveau de... Pour la SPQ, ça serait génial si une des trois villes réussit à faire passer une modification de règlement de zonage pour limiter, en fait, c'est pas la malbouffe qu'on veut limiter, c'est plus restauration rapide. Parce que la loi ne nous permet pas de légiférer.
C'est ça, vous marchez sur des œufs.
Oui,
vous pouvez pas faire
ça. La loi ne nous permet pas de légiférer au niveau du menu des restaurants. Donc, on va essayer de voir, de surmonter cette difficulté-là, en fait, avec des critères que l'on retrouve pour tout type de restauration rapide. Donc, on vise plus les restaurations rapides et même, on regarde peut-être même les dépanneurs. On pourrait peut-être inclure. Et il y a des gens qui sont vraiment emballés par le projet, qui veulent faire d'autres types de commerce aussi qui sont pas nécessairement au niveau de la nourriture.
Et je soupçonne que vous avez un soutien populaire pour ça, Madame Fortin.
Il y a eu un sondage en avril dernier, en 2009, au niveau de la population du Québec adulte, et c'était 76% qui était en faveur d'un règlement de zonage autour des écoles pour limiter la restauration rapide. Et dans les trois villes, ça se situe entre 79 et 82 %, c'est plus élevé.
Alors, on verra où tout cela nous mène
l'année prochaine.
Mais avant qu'on se quitte, tous les trois, Lune Mongeau, Guy-Paul Duhamel et Nathalie Fortin, ou Paul-Guy Duhamel, je vous ai inversé le prénom, pardonnez-moi, Monsieur Duhamel. Je vais vous poser une question ratoureuse encore une fois. Si vous aviez, en quelques secondes, une politique à faire mettre en œuvre d'urgence tout de suite, dès maintenant, pour améliorer l'alimentation des Québécois en termes d'offres, qu'est-ce que vous feriez, Lynn Mongeau?
Je vais être aussi ratoureuse que vous et je vais vous dire qu'il faut faire attention au piège de ne viser qu'une seule chose. L'épidémie est venue lentement par un tas de petits facteurs qui s'additionnent et il faut faire plusieurs mesures en même temps.
Monsieur Duhamel?
Je pense que, je suis d'accord avec Lynn dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, je dirais, il faut absolument que ce qui soit mis en œuvre vienne du milieu. Donc, quand on parle d'école, il faut absolument que les jeunes fassent partie de la solution et non pas qu'on leur impose une solution.
Madame Fortin?
Moi, j'arriverais avec une solution plus idéaliste. L'idéal, ce serait que les repas soient subventionnés dans toutes les écoles.
Comme les cantines en France. Les
Comme
élèves
en France,
à
effectivement.
Excellent. Ben, merci tous les trois.
Au revoir.
Eh bien, merci effectivement à vos invités, Chantal. Lynn Mongeau, coordonnatrice du plan d'action gouvernemental de promotion de saines habitudes de vie, de prévention des problèmes reliés au poids. Paul Guy Duhamel, directeur régional en nutrition du groupe Campass, et Nathalie Fortin, chargée de projet à l'Association pour la santé publique du Québec. Merci à vous trois.
Merci.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, une émission spéciale sur la santé publique, comme on en a discuté toute la semaine à Montréal pendant les 13e journées annuelles de santé publique. Et on termine cette émission, le temps tourne dans l'intimité des relations amoureuses. Sophie-André Blondin, qu'est-ce que la santé publique à avoir dans nos amours?
Ben, quand les amours vont bien, la santé publique a peu de choses à avoir dans nos amours, mais quand elles tournent mal, quand la violence fait ses ravages, oui, quand la violence laisse des traces qui durent très longtemps, là, il y a un problème plus grave et la santé publique doit intervenir parce que c'est plus grand que la somme de deux individus d'une relation amoureuse. Et la violence, elle s'exprime dans plusieurs âges de la vie. Il y avait d'ailleurs une journée ici au JAF qui était consacrée à cette expression de la violence dans les relations amoureuses à différents âges de la vie, parce que les relations amoureuses des ados d'aujourd'hui, on peut avoir avec les relations amoureuses des personnes âgées d'aujourd'hui. Ça ne se passe pas nécessairement de la même façon dans les deux types de couples, dans les deux organisations amoureuses. On va, pour l'instant, nous, se concentrer sur une clientèle dont on connaît peut-être mal la réalité, et il y a peut-être beaucoup à apprendre de ce côté-là. Ce sont les personnes âgées. Les personnes âgées, on en parle avec Lise Momini de l'École de travail social à l'Université de Montréal et elle dirige le CRIVIF, qui est le Centre de recherche sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Bonjour, Madame Momini.
Bonjour.
Alors, généralement, c'est pas un dicton, mais c'est une connaissance qu'on transmet, c'est que plus on est vieux, plus on est sage. Vous trouvez que c'est pas le cas et pas toujours le cas dans le cas de la violence conjugale?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment pas toujours le cas. Et c'est un peu dommage qu'on pense de cette façon-là parce que en pensant qu'en vieillissant, on devient sage, qu'on ne peut pas exercer de la violence ou encore vivre de la violence, tout cela fait en sorte que il y a des hommes et des femmes, mais plus de femmes que d'hommes, qui se retrouvent dans ces situations de violence-là pour lesquelles on est très surpris d'apprendre qu'elles sont dans des situations de violence.
On est aveuglé,
mais parce qu'aussi, on a beaucoup mis l'accent sur, bon, d'abord les femmes plus jeunes. Vous avez parlé des jeunes dans leurs relations amoureuses, les adolescents, entre autres. On s'est aussi intéressé aux femmes d'âge moyen, si je peux parler comme ça. Mais par rapport aux femmes plus âgées, on n'en a malheureusement pas parlé beaucoup.
Bon, vous dites, et vos travaux s'intéressent aux femmes victimes de violences, il faut aussi savoir qu'elles n'ont pas le monopole de la victimisation et que le portrait des relations amoureuses des personnes âgées d'aujourd'hui change aussi.
Oui, d'abord, c'est vrai de dire qu'elles n'ont pas le monopole, mais je pense que personne peut avoir une certaine fierté à avoir le monopole par rapport à la violence. Hein. Je crois bien que je vous apprends pas ça. D'autre part, je ne dis pas en disant ça, je pense qu'il est important de préciser qu'il y a davantage de femmes qui vivent ces situations de violence-là que d'hommes. Alors, je pense que ça, c'est important d'abord de le préciser. Est-ce que le portrait change avec les années? Je vous dirais pratiquement oui et non. Dans les études que j'ai menées, j'ai rencontré plusieurs femmes qui, les femmes que j'ai rencontrées avaient plus de 60 ans, qui vivaient cette situation de violence-là, qui vivaient ou qui l'avaient vécu, cette situation de violence-là, m'ont rapporté des Manifestations de violence, bien sûr qu'il y en a qui sont un peu semblables à ce que peuvent vivre les femmes plus jeunes, mais ce qui les différencie, et ça je pense qu'il est très important d'en parler, c'est que cette violence-là, elle est présente depuis très longtemps.
Des décennies
pour les femmes qui, par exemple, qui vivent depuis 40 ans, 50 ans avec le même conjoint. Il arrive, et c'est pas rare, que la violence soit présente depuis pratiquement le début des fréquentations.
Est-ce qu'elle s'accentue, est-ce qu'elle change avec la vulnérabilité plus grande d'une femme souvent plus âgée?
Oui, la violence, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est ça qui est un peu problématique, si en vieillissant, avec l'avance en âge, par exemple, le conjoint qui deviendrait physiquement un peu moins fort, moins capable d'exercer de la violence physique, qui va exercer davantage de violence psychologique. On fait fausse route en pensant ça. D'abord, l'exercice de la violence psychologique, elle est là, elle est très présente, et je vous dirais que dans toutes les situations, j'en ai pas rencontré une seule où il y en avait pas. La violence psychologique, elle est présente. La violence physique, et c'est là que ça devient aussi un problème, c'est qu'elle s'accentue aussi avec l'avance en âge.
Il continue aussi à y avoir un type de violence sexuelle.
Oui.
Ce qui peut surprendre certaines personnes.
Oui, absolument. Écoutez, quand on pense que parce que les femmes, quand elles vieillissent, elles n'ont plus de relations sexuelles, qu'elles sont asexuées, je l'ai entendu déjà. Écoutez, c'est difficile d'imaginer qu'elles peuvent vivre de la violence sexuelle dans leur relation intime. Ce qui n'est pas le cas parce que exactement, elles vivent encore de la violence sexuelle de la part du conjoint.
Alors, pour les intervenants et aussi pour nous, il faudrait donc on gagnerait à aiguiser notre sensibilité, nos oreilles et nos yeux parce que on ne pense pas que c'est là, mais ça existe.
On gagnerait à être très vigilant par rapport à ça, et c'est chacun d'entre nous. Je dirais que c'est pas seulement les intervenants, mais c'est chacun d'entre nous comme citoyens. On doit être attentif à la situation que peuvent vivre ces femmes-là.
Merci beaucoup, Madame Montminy.
Avec plaisir. Au revoir.
Merci donc, et je rappelle le nom de votre invité, Lise Montminy, qui est de l'École de travail social de l'Université de Montréal. C'est ainsi que prend fin cette édition spéciale des Allumières, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Sylvain Labrec et Mathieu Dumontier, des journalistes Gaël, Lucia Berdou, Sophie-André Blondin, Chantal Srivastava, au site internet Louis-André Bertrand. Merci à nos invités, merci à Irène Langis de l'Institut national de santé publique du Québec, merci à toute l'équipe du service de presse de ces journées annuelles de santé publique, Vicky Bertrand, Karine White et Mireille Simard. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la première chaîne de Radio-Canada et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années Lumière. Au revoir!